Bonsoir. Nous vous proposons ce soir la première émission d'une série consacrée à Elsa Triolet, à l'auteur Elsa Triolet. Elsa Triolet est peu connue aujourd'hui et quand elle l'est, c'est souvent dans l'ombre de Louis Aragon. Et c'est pour contribuer à lui redonner sa place dans la littérature française que nous avons entrepris cette série d'émissions Vendémiaire qui sera réalisée avec Maria Berlioz et Jean Knouf, tous deux membres de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, Salaette. Nous recevrons aussi la participation de la comédienne Annie-Claude Sonton, qui nous offrira des lectures de textes de Elsa. En ouverture de cette première émission, vous avez entendu un extrait du premier mouvement du premier concerto de Tchaïkovski. Jean et Maria vous éclaireront sur ce choix musical un peu plus tard. Dans cette première émission, nous allons donc évoquer l'origine russe de Ella Kagan et sa jeunesse. Et pour ce faire, je laisse la parole à Jean et Maria.
Alors, je crois que ça va être mon tour pour commencer. Bonsoir à tous. D'abord Tchaïkovski, parce que c'était la période et il n'y avait rien de mieux pour avoir un petit peu l'esprit de cette fin de 19e siècle. Alors, nous allons parler bien sûr d'Elsa Triolet. Parmi vous, il y en a beaucoup qui doivent l'avoir lu, d'autres en ont au moins entendu parler. Une chose est certaine, c'est qu'on en a parlé longuement lorsque on parlait de Aragon et puis les poèmes pour Elsa. Donc la fameuse Elsa, c'est elle dont nous parlerons pendant des mois complets parce que au moins une fois par mois, nous trouverons toujours quelque chose de très très important à voir et écouter et décrire de cette grand écrivain. Alors, tout le monde connaît Elsa Triolet par la chanson qu'a proposée Ferrat ou Ferré, Leonardi, ou Hélène Martin, ou Gérard André, et bien d'autres encore. Ils ont mis en musique de nombreux poèmes d'Aragon, qui chantent évidemment les yeux d'Elsa. Nous aimerions parler d'une autre Elsa, qui ne fut pas seulement la muse d'Aragon, mais également un grand écrivain et une femme engagée, et combattante contre le fascisme et pour la culture. Huguette Bouchardot, dans une étude sur Elsa Triolet, écrit « Un destin ancien menace toujours les femmes, celui de n'être reconnue qu'à travers les hommes dont elles sont les filles, les amantes ou les épouses. Comme il serait tentant de ne décrire Elsa Triolet qu'à travers ceux qui peuplèrent sa vie, les amants et les maris qu'elle eut. Le plus célèbre d'entre eux, surtout celui qui s'appliqua au cours de tant d'écrits, à ne se définir que comme son servant, les écrits dont nous avons entendu bien sûr et dont on nous a lu souvent. C'était bien sûr, je vous laisse la parole et vous laisse deviner.
Oui, c'est bien sûr Aragon. Alors, Aragon, on va le croiser nombreuses fois tout au long de ces émissions. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est insister justement sur cette femme singulière que fut Elsa Triolet, une femme d'origine russe qui choisit un destin français, qui choisit une autre langue que sa langue maternelle, et qui en plus a un destin extrêmement singulier puisque elle vit dans un premier temps à l'ombre d'un géant de la littérature mondiale qui est Vladimir Maïakovski, qui est le chantre et le héros de la Révolution d'Octobre, hein, qui est quand même ces 10 jours qui ébranlèrent le monde, et qui ensuite va rencontrer Louis Aragon, avec lequel, et je crois que cet exemple est unique dans l'histoire de la littérature universelle, avec lequel elle va construire ce qu'on appellera les œuvres romanesques croisées, c'est-à-dire que leurs œuvres vont se répondre l'une l'autre. Et on essaiera, dans la mesure du possible, parce que c'est un travail qui n'a pas été encore mené sur le plan universitaire de façon suffisamment approfondie, on essaiera justement d'apporter quelques éclairages dans ce dialogue qui est vraiment un dialogue unique. Et puis il y a évidemment la militante, la femme résistante, hein, parce que on aura l'occasion de leur dire lorsqu'on sera arrivé à cette période, Elsa aurait pu choisir, Aragon également d'ailleurs, de partir comme un certain nombre d'artistes, notamment aux États-Unis, alors qu'ils ont choisi de séjourner en France et en particulier dans notre région. Voilà tout nos intentions, hein, sur ce que, et puis montrer en quoi lire Elsa Triolet aujourd'hui, c'est parler d'aujourd'hui. Voilà, hein, je crois que ça c'est quelque chose d'important. Alors oui, son enfance peut-être.
On va commencer par
le commencement.
Oui, on va vraiment démarrer là.
Voilà, on va vraiment démarrer. Alors Elsa, c'est bon, les Russes donnent très facilement des surnoms, mais particulièrement dans la langue russe, son nom c'est Ella, E2LA, Yurevna Kagan. Et elle est née à Moscou le 12 septembre 1896. Alors, c'est une famille bourgeoise, d'origine juive. Et elle vit dans un contexte, donc, ce 1887, on est toujours dans la Russie tsariste, bien entendu. Et Elsa va vivre dans une sorte de cocon familial, hein, on va le retrouver tout au long de l'émission. Bien que il y a une dimension qui la marquera toute sa vie et qu'on retrouvera tout au long de son œuvre, c'est l'antisémitisme qui est extrêmement puissant en Russie et bien entendu en France. Hein, 1896, on pense à l'affaire Dreyfus chez nous, hein, qui a été également un des scandales racistes dont tout le monde. Dont tout le monde a un souvenir.
Alors, on va parler déjà de son papa. Son père, Yuri Alexandrovitch Kagan, un avocat brillant et esprit cultivé, fait partie de ces quelques intellectuels d'origine juive qui, grâce à leur instruction et à leur travail, ont réussi à hisser au plus haut niveau social. Il étudie la condition des juifs dans la Russie, qui était très difficile pour tout cela, et travaille en tant qu'avocat à améliorer leurs conditions.
Alors, le milieu dans lequel vit Elsa, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, le milieu de la bourgeoisie éclairée, hein, c'est-à-dire qu'elle est dans un milieu de l'intelligentsia juive, où il y a une très très forte contestation de Nicolas II, le tsar, qui est un souverain autocrate, autoritaire. Très rapidement, la jeune Ella, qu'on appelle aussi Elitchka, Elik, elle est marquée par le climat d'antisémitisme qui est assez largement répandu. Et elle va le transposer bien plus tard dans un roman qui est paru en 1941 et qui s'intitule « Le cheval blanc ».
Et elle va dire ces quelques mots, comme par exemple, « Je m'appelle Marina, et vous ?»«
Michel Vigot. » »«
J'ai 10 ans, et vous ?»«
Je vais sur mes 11 ans. » »«
Est-ce que vous êtes juif ?»«
Juif ? Comment est-on juif ? Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est des gens avec qui je ne dois pas jouer. J'ai promis de toujours demander si on est juif avant de jouer avec des enfants. »
La mère d'Elsa, Elena Yulevna Berman, est née à Riga. Riga, c'est en Lettonie. Et en Lettonie, il y a deux langues officielles, le russe et l'allemand. Donc la mère d'Elsa est bilingue. Et elle va transmettre ce bilinguisme à ses deux filles, on parlera de la sœur d'Elsa ultérieurement, conformément donc à cette tradition culturelle de la bourgeoisie lettonienne. Et de surcroît, dès l'âge de 6 ans, Elsa va apprendre le français. Il faut insister sur le fait que, à la fin du 19e siècle, au 18e puis au 19e, le français est la langue culturelle de l'Europe. Et tous les intellectuels européens parlent français, on communique en français. Et dès l'âge de 6 ans, oui. Donc, Elsa va apprendre le français auprès d'une demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Dash, qui est d'origine française, mais qui parle le français avec un accent russe. Ça peut
donc
paraître curieux,
un
mais c'est comme
bien
ça.
Bien prononcé,
je suppose. Si vous avez déjà entendu Elsa, on aura sûrement l'occasion de passer des enregistrements d'Elsa, elle a toujours cet accent acidulé. Peut-être qu'elle cultivait d'ailleurs un petit peu volontairement. Et une précision qui a quand même son importance, c'est que chez les Kagan, on ne parle pas yiddish. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans une communauté juive de ce point de vue-là. La mère, ce qui explique le Tchaïkovski qu'on a passé en ouverture de l'émission, la mère est formée au conservatoire de Moscou. Elle aime beaucoup Tchaïkovski, entre autres. Et elle est pianiste et musicienne. Elle va initier ses deux filles à la musique. Elle est également poétesse et elle met ses vers en musique.
Donc on peut dire avec tout ça qu'Elsa Triolet a quand même, la petite Elsa, elle démarre dans la vie, bien sûr l'antisémitisme, mais tout de même dans un cadre qui est quand même très 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 intéressant, que ce soit du côté de son papa ou de sa maman, musicienne, bilingue, donc quelque chose d'important. Donc elle vit une enfance heureuse. Et tout à l'heure, Jean disait qu'elle avait une deuxième sœur, on en parlera plus longuement, certes, mais cette sœur, il faut dire qu'elle s'appelle Lily, et elle est née 5 ans avant elle. Elle est née le 11 novembre 1891. Toute cette famille n'avait pas du tout de pratique religieuse, mais par contre, on vivait bien sûr des moments importants avec des artistes, des poètes, et puis les vacances arrivaient. Et ce sont des voyages qui ont lieu. Évidemment, à Beyrouth, afin d'écouter Wagner.
Beyrouth,
oui, bien sûr.
Beyrouth,
bien sûr. Et donc, elle écrivait, Elsa, « Ma mère allait à Beyrouth en pèlerinage comme les pèlerins vont à la Mecque. » Vous vous rendez compte à quel point elle y tenait. Mais elles sont allées également à Varsovie, à Berlin, à Paris, en Finlande. Mais Paris, finalement, ça allait être autre chose. Mais on en reparlera longuement. Alors, cette sœur aînée, Lily, dite aussi Liska, est belle. Elle est éblouissante, rayonnante. Elle exerce une domination absolue sur sa jeune sœur. Elsa est sa chose. Jusqu'au jour où Lily décrète, elle avait grandi. Je ne joue plus, je ne suis plus une petite, je ne suis pas ta petite. Pour Elsa, c'est l'entrée dans une immense solitude.
Voilà, très rapidement, Lily qui est une jeune adolescente très belle, Lily a un immense rayonnement intellectuel. Elle fréquente les milieux d'avant-garde, hein, donc comme on l'a dit, on est dans un milieu de la bourgeoisie cultivée, et on est dans les années qui vont précéder la révolution de 17. Il y a une très grande effervescence artistique, intellectuelle, et Lily est très introduite dans ces milieux. Elle a une amie dont le frère s'appelle Osip Maximovitch Brick. Il est né, lui, en 1888, donc il a 3 ans de plus qu'elle, 8 ans de plus qu'Elsa, hein, 1896-1888. Et Osip Brick est un théoricien des nouvelles formes poétiques. Hein. En France, par exemple, il y a un poète comme Mallarmé qui a eu une très très grande influence sur les formes poétiques. Et puis, il y a aussi toute cette avant-garde artistique. À cette époque, ces intellectuels, en France c'est la même chose, on en parlera ultérieurement, font un lien très fort entre avant-garde esthétique et avant-garde politique. J'insiste là-dessus parce que c'est loin d'être évident aujourd'hui. Et c'est-à-dire que pour Brick, changer l'art, c'est aussi changer la société, hein, et réciproquement. Alors, Ossip et Lily s'aiment et ils se marient le 26 mars 1912. Et Elsa va se souvenir donc de cette période de la rencontre de sa sœur avec Ossip Brick.
Elsa dira « Aussi naturellement que se cherchent et se trouvent les individus d'une même espèce animale, chien, chat, oiseau, je n'avais pour amis que des poètes, peintres, philologue, historien ou poète. Tous mes amis faisaient des vers. »
Thank you.
écoutez bien l'émission Vendémiaire consacrée ce soir à Elsa Triolet, la première d'une série que nous entamons avec Jean Knopf et Maria Berlioz pour évoquer cette auteure. Le morceau de musique que vous venez d'entendre dans sa presque intégralité est le Nocturne opus 37 numéro 2 de Chopin, interprété par Brigitte Engerer. Je vous redonne la parole pour poursuivre l'histoire de la vie de Elsa et de sa sœur Lily.
Oui, alors pourquoi avoir choisi Chopin? Bon, nous l'avons dit, la mère d'Elsa est pianiste et en plus Chopin nous a paru bien coïncider avec cette impression qu'a Elsa d'être ce sentiment de solitude, de mélancolie qui est permanent chez elle. Et plus tard, lorsqu'elle deviendra un écrivain à la fin de la guerre, elle écrira un roman dont le titre est « Personne ne m'aime ». Et ce sentiment d'abandon, ce sentiment de n'être aimé par personne, qui est surprenant parce qu'on a vu quand même qu'elle vivait dans un milieu extrêmement protégé, où elle est très choyée. Ce sentiment chez elle est quelque chose de vraiment très très fort, et on peut le juger contradictoire avec ce qu'elle a vécu dans cette enfance dorée qui n'a rien à voir avec ce qu'a dû être l'existence de millions de petits Russes à son époque vivant dans la misère. Et ce sentiment de n'être pas aimé, c'est un sentiment qui reviendra jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de la vie d'Elsa, jusqu'à son dernier roman qui s'intitulera « Le rossignol se tait à l'aube ». Dans son enfance, Elsa va être marquée par un événement que Annie-Claude Sauton va nous lire. C'est extrait d'un roman que Elsa a écrit en russe, hein, le début de la carrière d'Elsa, d'écrivain. Elsa a écrit en russe, et c'est un roman qui s'appelle Fraise des bois, qui a été traduit après la mort d'Elsa. C'est Aragon qui a demandé à Gallimard d'en effectuer la traduction. Fraise des bois, donc, a été édité. Elsa est morte en 70, je crois en 71 ou 72. Et dans ce texte autobiographique, Elsa raconte un certain nombre de scènes. Ce sont des images, des flashs, des photographies de scènes de l'enfance où on voit défiler un certain nombre de personnages, le père, la mère, la sœur, la nourrice, et puis d'autres également. Et dans l'extrait que Annie-Claude Sauton va nous lire maintenant, c'est un traumatisme que la jeune Elsa va rencontrer, puisqu'elle va rencontrer la mort.
On laissait à présent Fraise des bois sortir seule, à condition que ce ne soit ni trop loin, ni trop tard. Pour aller prendre la leçon, il fallait d'abord suivre la Marosaïka, puis la ruelle de Slatosk. On ne se sentait un peu mal à l'aise que dans la seconde, près du début de boisson. Le mercredi, ça allait. Mais le samedi, il y avait la queue, et Fraise des bois passait bien à l'avance de l'autre côté de la rue. Il y avait également un débit dans la Marosaïka, mais comme c'était une rue très passante, cela ne faisait pas peur. Seulement, Fraise des bois n'oubliait jamais de regarder avec étonnement l'angle éraillé couvert de grêlures blanches et jaunes de la cire des bouchons qu'on y faisait sauter de la maison où se trouvait le débit. Elle allait à sa leçon à 4h30. Elle en revenait vers 6h. En hiver, il faisait tout à fait noir. Ce soir-là, il ne faisait pas froid. Les réverbères à gaz donnaient un faible éclairage et c'était l'électricité des magasins qui illuminait la rue. Cela faisait sur le trottoir et la chaussée des parallélépipèdes jaunes. Les petites flammes bleues le long des vitrines n'avaient rien à dégeler, et sur les vitres embuées roulaient de grosses gouttes qui laissaient des raies transparentes, sinueuses. La neige sur la chaussée était devenue bistre et grenue, comme du sable. Sur les chevaux mouillés, Le long pelage d'hiver faisait des bouclettes. Les fers claquaient en touchant le pavé et les patins des traîneaux crissaient. Les gens avaient chaud dans leurs pelisses, leurs bottines fourrées et leurs bonnets de fourrure. Fraise des Bois porte une lourde serviette de partition. Son bonnet à oreilles lui chauffe insupportablement la tête. Ses gants de laine sont tout humides. Sa courte pelisse semble de plomb. Et bien sûr, les gammes, elles non plus, ne sont pas à leur mieux. Fraise des Bois regarde distraitement les bouteilles blanches et les fromages de Hollande rouges en carton-pâte, les paniers de fleurs, les jambons et les guirlandes de saucisses, les cahiers, les porte-plumes et les crayons. Et elle pense obstinément à sa vie de martyr. Elle tourne dans la ruelle de Slatowsk. Un cocher de luxe filant à toute allure fait jaillir sur elle un paquet de neige marron, ce qui a le don de la mettre dans une fureur tout à fait disproportionnée. Enfin, voici l'impasse de Slatowsk et la maison détestée et l'escalier. La leçon se passa, sans désagrément particulier. Fraise des Bois rentrait en flânant, et elle avait même la tête qui lui tournait de plaisir à la pensée que tout était fini. Soudain, elle entendit des cris, et vit un cocher qui, debout dans son traîneau, fouettait à tour de bras son cheval et semblait prendre la fuite. « Il ne veut pas mener un ivrogne au poste, » se dit judicieusement Fraise des Bois, comme une moscovite expérimentée. Ça ne rapporte rien, et ça abîme le traîneau. Il y avait plusieurs personnes arrêtées sur le trottoir. En approchant, Fraise des Bois vit une femme blonde affalée dans les bras d'un concierge. À côté, il y avait un agent et un autre concierge, avec son balai. « Qu'elle est jolie !»« Qu'est-ce qu'elle a ?» se demanda Fraise des Bois, avec crainte et compassion. L'agent arrêta un fiacre. On prit la femme sous les aisselles, et on la traîna vers lui. Ses pieds raclaient le sol. On la déposa dans le traîneau. « La couverture ! Écarte la couverture !» criait le cocher avec désespoir. Le corps de la femme se plia en deux et tomba sur le côté. Son fichu glissa de ses cheveux blonds clairs. Son manteau de drap noir, comme en portent les femmes de chambre de bonne maison, s'écarta. Une petite main blanche pendit hors du traîneau. L'agent s'assit de biais à côté de la femme en l'entourant de son bras comme un objet mal commode à transporter, vélocipède ou palmier en peau. Le corps de la femme oscilla et sa joue vint s'appuyer à la manche rugueuse et noire de l'agent. De sa bouche entr'ouverte, un filet coula. L'agent lâcha une bordée de jurons violents et incompréhensibles. Ils partirent. Le concierge au balai se mit à balayer la neige, l'autre regagna sa porte cochère. Il n'y avait plus rien à regarder. Fraise des Bois reprit son chemin. Près du débit, appuyé au mur, se tenaient des hommes en loques, pitoyables, pas du tout terrifiants. Il lui semblait que sa maison était très loin et qu'elle ne l'atteindrait jamais. Ses pieds se posaient tout de travers et elle avait une forte nausée. À la maison, on étouffait, tout y était insupportable. Maman racontait quelque chose d'ennuyeux, de déplacé et qui n'avait rien à voir. Fraise des Bois se déshabilla tout de suite et se coucha. Mais ce fut encore pire. La chaleur, l'angoisse, il n'y avait pas moyen d'y tenir. Fraise des Bois pleurait, voulait aller quelque part. Maman, inquiète, lui mit le thermomètre. Mais Fraise des Bois voit la main blanche et comprend que tout vient d'elle. Vers le matin, Fraise des Bois s'assoupit. On ne la réveilla pas. Et le lendemain, elle ne se leva que vers midi. Nounou vint lui jeter un coup d'œil et grommela « La maîtresse dort, samovar va fort. La voilà debout, samovar ne boue. Pour toi, pas de thé. » Maman vint, elle apporta le petit déjeuner. Fraise des Bois s'étira, bâilla et entama avec délice sa brioche.
Dominée par sa grande sœur, Elsa se sent seule. En 1915, son père meurt et elle décrit cette mort Donc Annie-Claude Sauton, toujours dans Fraise des Bois, nous lit le passage sur la mort du père.
Il faisait une chaleur insupportable. De nouvelles chaussures noires la serraient. Ses pieds à la torture trébuchaient sur les petits pavés ronds. Liska, le visage blanc comme ce papier, parlait avec Alec de choses indifférentes. Maman ne pleurait pas non plus, et ce n'est que lorsqu'on se mit à descendre le cercueil dans la fosse que Fraise des Bois l'entendit geindre tout bas et vaciller vers l'avant. Dounia se mit à pleurer à grands cris. On a enterré papa. Liska est partie avec son mari le jour même. Fraise des Bois et maman sont restés à deux. Ça a été le déménagement dans un nouvel appartement. Maman était comme une gosse, elle ne pouvait rien faire, avait peur de tout. Fraise des Bois examinait les papiers, fermait les caisses, engageait les camionneurs. Tout le bric-à-brac accumulé depuis 25 ans engorgeait le petit appartement neuf. Les premiers temps, on mangeait à la cuisine. On dormait dans des fauteuils. Avant de se coucher, on faisait un long trajet en tramway et on se promenait en se tenant par la main autour de la vieille maison. Et la nuit, la tête enfouie sous la couverture, Fraise des Bois reprend ses pensées interrompues dans la journée. Lentement, dans les moindres détails, avec une précision quasi photographique, avec passion, elle se remémore chaque geste, chaque mot de papa, chaud, vivant, des lointains, des drôles. Voilà le lait, voilà l'œuf. Mais pourquoi la côtelette n'y est-elle pas tout entière, Fraise des Bois? Et comme prononcée hier, lourde menace, Fraise des Bois, quand je mourrai, papa est mort. Papa aimé, papa chaud, papa est mort. Comment y croire? Dans un instant, on va entendre ça tout, et il va venir, l'air plein de dignité, agréable, soigné dans sa mise, et il lui pincera la joue de ses doigts chauds, la piquera de ses moustaches. Et la nuit, dans la touffeur, sous la couverture, remuant sans bruit les lèvres, Fraise des Bois éclate d'un trop-plein d'amour, désormais inutile. Papa. Papa.
Sur le Nocturne opus 27, numéro 2 de Chopin, interprété par Brigitte Engerer, vous avez entendu donc la lecture d'Annie-Claude Sauton d'un texte de Elsa Triolet. Je redonne la parole à mes invités.
Elsa a un attachement profond pour sa mère. Elle dit « Maman mourra sûrement avant moi. Et qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Elle reparlera de ses décès dans son dernier roman, Le Rossignol se tait à l'aube. Et là, le ton change. Nous allons écouter une lecture d'Annie-Claude Sauton, comme elle sait si bien le faire. Ça s'appelle « J'ai une chambre en ville ».
J'ai la bouche pleine de menthe. Derrière moi, travail machinal, vieux papier, dossiers, tampons, timbres, des encriers en nos jours de machines à écrire électriques et dictaphones. Tout à l'heure, j'ai lancé un encrier à la tête du patron, comme Luther à la tête du diable. Je suis vidée, chers parents. Je vais vous porter la bonne nouvelle au bout de ce sentier où il y a une maison forestière, la nôtre. J'ai une chambre en ville. Je n'y couche plus depuis que quelqu'un a écrit sur ma porte, au-dessus de la sonnette, « Putain ». Ce doit être le concierge. Il trouve qu'il y a trop d'hommes qui montent chez moi. Je ne suis pas une putain, mon Dieu, bien qu'il y ait trop d'hommes qui montent chez moi. Quand ma mère m'a téléphoné d'amener une infirmière, et à peine avais-je raccroché à retéléphoner pour me dire de ne rien en faire, le concierge m'a regardé drôlement. Je téléphone de la loge, je n'ai pas de téléphone chez moi. Comme pour me dire, c'est tout l'effet que cela te fait. Tu ne comprends pas que ton père, il est mort. Aucun effet, en vérité. Je ne m'arrêtais à aucune idée précise. Je n'avais pas l'intention de chercher une infirmière. Je ne me demandais pas ce que tout cela signifiait. Je n'avais pas de cœur. Je sentais bien que je n'en avais pas. Mes pères et mères s'occupaient de moi, mais je ne leur étais pas sympathique. Je n'en savais rien, je croyais ne rien en savoir. Je savais. Le concierge, c'est certainement lui qui a écrit sur ma porte au-dessus de la sonnette « Putain !» Le regard qu'il m'a jeté. Ne t'occupe plus de l'infirmière, c'est inutile. Je le lui répète et il me regarde. Pauvre fille, tu n'es pas stupide au point de ne pas comprendre qu'il est mort, ton père. Mort. Et il a écrit au-dessus de ma sonnette « Putain !»
Alors là, on est très loin de la tradition proustienne où le souvenir d'enfance est cristallisé, presque sanctifié, puisque Elsa met beaucoup de distance justement entre un récit tel que celui de Fraise des Bois et ce qu'on peut lire donc dans ce dernier texte que vient de lire Annie-Claude et qui est donc extrait du Rossignol se tait à l'aube, qui est donc le dernier roman écrit par Elsa. Et à la sortie de ce roman, elle avait dit, d'ailleurs, au grand désarroi de ses amis, il y avait Edmond Charleroux, d'ailleurs, c'était au cours d'un dîner, elle avait dit « Je n'écrirai plus ». Effectivement, elle est morte quelques mois plus tard. Donc, c'est vrai que tout ce... Il y a cette opposition hein, qu'on a retrouvée en permanence entre cette enfance, disons-le, privilégiée, et puis ce sentiment d'abandon permanent qu'Elsa va exprimer tout au long de sa vie, y compris, d'ailleurs, on le verra, dans sa relation avec Aragon.
Elsa souffrira toute sa vie de ne pas être mère. Elle écrit dans cette nouvelle qui a pour titre... Quel est cet étranger qui n'est pas d'ici, ou le mythe de la baronne Mélanie? L'amour maternel, c'est quelque chose comme une passion à laquelle on répondrait par une fidèle amitié dans le meilleur des cas. Par de l'habitude dans d'autres, de la tolérance dans d'autres encore. De toute façon, c'est toujours un amour malheureux. D'ailleurs, au moment de la guerre d'Espagne, après la défaite des Républicains, Aragon et Elsa tenteront d'adopter un enfant en vain. Ça ne s'est pas fait.
Sur l'enfance d'Elsa, on va écouter un dernier témoignage qui a été publié dans la revue biannuelle que publie la Société des Amis de Louis Aragon Elsa Triolet, la Salaette, et qui s'intitule « Faites entrer l'infini ». C'est un texte qui a été publié il y a assez longtemps déjà, puisque c'était dans le numéro 15, qui est paru en juin 1993. Et les extraits que vous allez entendre sont tirés du journal intime d'une amie d'enfance d'Elsa, qui s'appelait Nadejda Andreevna Kerkov, et qui a noté, c'est un journal qui a écrit quelques notations où il est question, entre autres, d'Elsa Triolet.
14 novembre 1909. Demain, c'est dimanche. Comme c'est bien. Je m'imagine déjà ce que je vais faire. Premièrement, à 11h, j'ai une leçon de musique. On imagine de quel repos il s'agit quand la journée commence par une leçon. Mais cela doit être considéré comme un plaisir. Deuxièmement, après déjeuner, Elsa vient me voir. Nous préparerons ensemble les leçons pour lundi et ensuite nous irons descendre les pentes. 15 novembre 1909. Le dimanche s'est passé comme je l'avais pensé, mais de plus terriblement vite. Aujourd'hui, en entrant en classe, j'ai dit bonjour à mes amis, Greta Arendt et Vergusa Amirova. Quand je me suis assise au pupitre, Elsa est arrivée et m'ayant embrassée sur la joue, m'a dit « Qu'est-ce que je sais ?» Ses yeux riaient et elle souriait malicieusement. On m'a parlé d'un garçon qui s'appelle Micha. « Je ne connais aucun Micha, à part mon frère, me suis-je exclamée. » Attendons, celle qui m'a raconté cela marchait avec ce Micha, quand tout à coup elle le voit s'arrêter devant ta porte et dire « Ici habite Nadia, et je ne m'en irai pas tant que je ne l'aurai pas vue. » Il ne m'est pas venu à l'esprit de croire Elsa, et je lui dis « Comme notre imagination fonctionne. » 30 mai 1910. Le thème de l'examen s'est trouvé être un court récit de Tourguenieff. Ayant écouté le récit, j'ai un peu réfléchi au début. Ensuite, j'ai commencé à exposer le contenu, me tournant de temps en temps vers Elsa. Ayant fini, j'ai recopié au propre, et en attendant Elsa, j'ai donné ma feuille à Viktor Ivanovitch. Ensuite, avec Elsa, nous sommes allés dans le parc, et chacune à part soi a commencé à répéter le programme avant qu'on nous appelle en classe pour l'examen oral. 20 juin 1911. C'est seulement cette année que j'ai vraiment compris ce que signifiait « bûcher vraiment ». D'abord, déjà avant de partir à Tsaritsino, j'ai bûché avec Elsa. Ensuite, pendant les fêtes, toute seule, même en étant malade. Ensuite, de nouveau avec Elsa, qui est arrivée chez nous à la datcha pour quelques jours. Enfin, après le deuxième examen, je ne suis pas partie de Moscou et nous avons travaillé avec Elsa chez elle. 28 novembre 1911. Pour mon anniversaire, nous répétons une pièce. En attendant, il y a eu seulement deux répétitions pendant lesquelles nous avons seulement eu nos rôles. Les répétitions étaient très joyeuses. Participent à la pièce Elsa, Ljuda, Konelnikov, Nina, Kodja, Jola et moi. Ensuite, il y aura un concert, une lecture de monologue comique, un air de violon, Nina va lire ses vers, je vais danser un duo de la Dame de Pique avec accompagnement d'Elsa. 7 janvier 1912. Le 3, toute la compagnie est de nouveau allée en luge à Tsaritsino. C'était très gai. Il est impossible de compter combien de fois, avec Elsa, nous avons volé dans les tas de neige.
Elsa va souffrir toute sa vie de la rivalité avec sa sœur. Lily est tellement belle, et on va l'entendre justement dans cet extrait que va nous lire Maria.
Lily est venue seule au bateau qui nous emmenait, ma mère et moi, à Stockholm. Pendant longtemps, j'ai été obsédée par Lily, telle que je l'avais vue sur le quai. Elle nous tendait un paquet de sandwichs à la viande, nous étions déjà sur le pont, un grand luxe à cette époque. La tête rousse, rejetée en arrière, elle montrait toutes les dents splendides, solides de sa grande bouche fardée, ses yeux marrons tout ronds illuminés, dans un visage avec cet excès d'expression presque indécent d'intensité. Qui fait que jeune ou vieille, avec son teint miraculeux, ou toute ridée, les passants se retourneront toujours sur son passage.
Oui, cette sœur, nous la retrouverons tout au long de ces émissions, puisque toute la vie d'Elsa va être rythmée, sauf pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, par une correspondance qui est très utile, justement, et pour suivre les événements et pour suivre également l'évolution d'Elsa Triolet. Mais elle a, malgré cette rivalité qui va être, on en parlera dès la prochaine émission, notamment par rapport à Mayakovsky, malgré cette rivalité, Elsa va toujours avoir une immense admiration et un attachement très fort pour Lili.
Elsa Triolet avait une sœur qui était très belle, je viens d'en décrire un petit peu. Pourtant, Elsa séduit. Le grand amour d'enfance qui se prolongera jusqu'en 1916 lorsqu'il la demande en mariage avant de se transformer en amitié amoureuse sera celui pour le futur grand linguiste Roman Jakobson. Les Kagan et les Jakobson sont liés et des enfants élevés ensemble. Le premier roman d'Elsa, à Tahiti, porte d'ailleurs en exergue un quatrain que Jakobson lui envoya.
Je ne pourrais pas te le taire, que je t'aime et t'aimerai. Si tu t'en vas sur cette terre, jamais je m'en consolerai. Thank you.
Vous écoutez actuellement le Nocturne opus 9 numéro 2 de Chopin, toujours par Brigitte Engerer. Auparavant, c'était l'opus 9 numéro 1 dont vous avez entendu un extrait. Ces musiques, donc, pour illustrer les propos tenus par Jean Knopf et Maria Berlioz, qui vous ont donc proposé un éclairage sur l'enfance et la jeunesse de Elsa Triolet, et la Kagan à l'époque. Donc, première émission d'une série qui se poursuivra au fil des mois, au rythme approximatif d'une par mois. Le prochain rendez-vous que nous vous donnons sur ce thème sera le 24 février prochain pour aborder la suite de la jeunesse de Elsa Triolet, en particulier l'intervention et la présence de Vladimir Mayakovsky à cette période-là. Voilà, si mes invités veulent ajouter un mot avant que nous concluions et nous nous disions bonsoir.
Voilà, au mois prochain.
Merci de nous avoir accueillis et à bientôt.
Bonsoir.
Thank you.